Esdras, chapitre 7, nous faisons une première lecture des versets 1 à 10. Esdras 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils d'Ilkija, fils de Shalum, fils de Tzadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zeracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniens vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors nous étudions ce livre d'Esdras et ce n'est qu'ici, en chapitre 7, enfin, où nous faisons connaissance avec l'homme lui-même, Esdras lui-même, 80 ans après les événements du premier chapitre. Voilà, on fait connaissance avec Esdras. Alors ce matin, nous allons regarder en plus particulier ce personnage et le rôle qu'il a joué dans ce temps de réveil que Israël, le peuple de Dieu, est en train de vivre. Comme nous disions depuis plusieurs dimanches, pendant ces livres d'Esdras et de Néhémie, le peuple de Dieu est en train de vivre ce nouveau départ, ce réveil, ce retour vers Dieu, cette renaissance après des années d'exil, d'éloignement du temple, d'oubli un peu des principes et de la loi de Dieu. Mais ils reviennent. Et là, dans les chapitres précédents, ils ont terminé la construction du temple, ils en ont fait la dédicace, l'inauguration. Mais maintenant, il faut que ça dure, ce réveil, ce retour vers Dieu, il faut que ça dure, il faut que le peuple reste éveillé. Justement, le signe que c'est une œuvre de Dieu, que ça vient vraiment de Dieu, c'est que ça dure, c'est pas juste une émotion passagère, mais ça dure. Parfois chez moi, le réveil sonne, et puis je me rendors. Hein. J'appuie sur le bouton et je me rendors. Oui, je m'étais réveillé, mais pas vraiment, parce que je me rendors. Et ici, le peuple a été réveillé par Dieu, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils vont se rendormir ou est-ce qu'ils vont continuer éveillés? Eh bien, c'est Esdras, cet homme Esdras, qui aura ce rôle de les garder éveillés. Donc Esdras le scribe, formateur et réformateur, et je pense qu'il peut nous inspirer sur la manière que Dieu veut encore construire son Église aujourd'hui, notamment dans les moments où il ramène son peuple, il nous réveille. Au cœur de ces moments, on va trouver des hommes comme Esdras qui encouragent le peuple à rester éveillé. Alors pour que ça avance, pour que le projet de Dieu avance, pour que l'Église de Dieu avance, nous allons voir ce matin qu'il faut un homme, il faut une mission et il faut de l'aide. Il faut un homme, il faut une mission et il faut de l'aide. Tout d'abord, il faut un homme. Dieu utilise des hommes, c'est évident dans sa parole et dans l'histoire de l'Église. Le retour et le rétablissement du peuple de Dieu avaient été décrétés par les prophètes, c'était une chose sûre et certaine qui allait s'accomplir selon la parole de l'Éternel, mais il l'a pas fait sans les hommes comme Esdras, comme Néhémie. Esdras, comme nous voyons ici, il est vraiment l'homme de la situation. Avant d'avoir étudié Esdras, nous avons étudié le livre d'Esther. Esther, pour elle, elle était vraiment la femme de la situation pour délivrer le peuple de Dieu. Et ici, Esdras, il est vraiment l'homme de la situation. Alors voyons ce qui a pu qualifier Esdras pour faire ce travail de consolider ce réveil. Dans les premiers versets, tout d'abord, une première qualité, c'est tout simplement ça vient de sa naissance, c'est sa généalogie. On a lu tous ses noms. J'ai fait exprès parce que là, c'est important de cette liste, parce que pour Esdras, ce qui est important, c'est qu'il retrace sa postérité, sa descendance jusqu'à Aaron, le souverain sacrificateur. Aaron, le frère de Moïse, qui était souverain sacrificateur, le premier souverain sacrificateur selon la loi de Dieu. Et Esdras, c'est un de ses arrière-petits-fils. Et ça, c'est important pour le travail que Esdras va devoir faire. Il va mener des réformes un peu sur l'ensemble. Maintenant que le temple est construit, il faut le remplir avec un service, avec un culte, avec des gens comme des portiers, des chantres, des prêtres, des lévites. Et pour retrouver les repères, parce que ça fait des années qu'ils n'ont plus fait ça. Alors comment il faut s'y prendre? Eh bien, Esdras va devoir chapeauter tout ça. Et étant descendant du souverain sacrificateur, il aura ce rôle important à jouer. Ça va lui donner une autorité, une capacité d'agir, parce que, comme nous allons voir dans les chapitres suivants, il y a même parmi les prêtres, même haut placés, il y aura des problèmes, il y a des choses à reprendre, des péchés même, et donc Esdras, il va devoir agir, et donc rien que par sa naissance, il est bien qualifié pour cela. Et ça, c'est vrai dans la vie, hein, quand Dieu veut faire quand Dieu veut mener un projet, quand il veut lancer son église plus loin, et il faut un homme, et Dieu va souvent qualifier de cet homme avec des choses, une capacité naturelle qu'il aura peut-être de sa naissance ou de sa famille. Je pense à l'apôtre Paul, qui a mené vraiment la mission dans le Nouveau Testament. Paul, par sa naissance, il était né dans un tribut de Benjamin, parmi les pharisiens, donc, et son parcours éducatif, ça fait de lui, rien que ses capacités naturelles, il était bien placé pour faire le travail de rédiger une bonne partie du Nouveau Testament et parcourir le monde, naviguer entre les Juifs et les païens. Dieu l'avait déjà préparé ainsi. Ou bien plus tard, lors de la réforme, on pense à Jean Calvin. Même avant de s'être converti, il avait étudié le droit. Son père le destinait à être avocat et il avait une capacité, une grande intelligence naturelle qui n'est pas donnée à tous. Et puis il s'est converti et Dieu l'a mis dans cette réforme où ils ont redécouvert l'évangile et Jean Calvin, avec ses qualités d'avocat, il était bien placé pour défendre la vérité. Il a pris la défense contre les avocats du diable. Lui, il a fait l'avocat de la vérité de l'évangile. Et ses écrits tiennent encore debout aujourd'hui par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Donc, tout d'abord, une qualité qui vient de notre naissance, de notre parcours que Dieu nous a tracé. Ensuite, une autre qualité qu'on trouve chez Esdras dans les versets suivants, verset 6. Cet Esdras vient de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non seulement il est descendant du souverain sacrificateur, mais il est versé dans la loi, dans les Écritures. Le mot versé, c'est littéralement rapide. Il maîtrise la Bible. Parfois, même entre chrétiens, on joue ce jeu avec les enfants, le premier qui trouve un verset. Ça, on encourage les enfants déjà à avoir une certaine maîtrise de la Bible. Mais, ou bien pas mal de concours, c'est le premier qui trouve la réponse qui gagne. Il y a une rapidité qui signale une certaine maîtrise. Et Esdras, il maîtrise la parole de Dieu, la pensée de Dieu, il est versé dans la loi. D'où vient cette maîtrise, cette rapidité? On apprend en verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je pense que c'est même un verset clé pour tout ce livre qui décrit cet homme Esdras. Il avait appliqué son cœur à faire trois choses, à étudier, à mettre en pratique et à enseigner à d'autres. Et ça, c'est le secret, c'est quelque chose qui qualifie particulièrement cet homme, c'était son secret. Il a étudié, il a mis en pratique et il a enseigné. Ces trois choses sont capitales, vont ensemble. Et dans un sens, je dirais que ça devrait être le portrait de tout chrétien, d'étudier la Bible, la pensée de Dieu, d'avoir cette maîtrise, cette rapidité dans la Bible. Mais si ça s'arrête là, ça ne sert à rien. Après, il faut le mettre en pratique. Donc étudier, ensuite mettre en pratique, le vivre. Et c'est ce que Esdras faisait. C'était pas un hypocrite, mais il le mettait en pratique déjà pour lui et pour sa vie. Et plus tard, quand il va devoir entraîner d'autres dans la repentance et dans les réformes, voilà, il va pouvoir le faire d'un homme qui a obéi, qui a mis en pratique la parole. Donc, étudier, mettre en pratique, et Dieu veut que ça aille encore plus loin que ça dans notre vie, c'est l'enseigner à d'autres. Et à enseigner à d'autres ce qu'il a fait. Et finalement, ce qu'a fait Esdras, on n'est pas loin du projet du Nouveau Testament, de faire des disciples, d'étudier ce que Jésus, la Bible dit, et puis de le vivre, et puis de l'enseigner à d'autres. Et je pense souvent, c'est le cas dans des réveils, dans des moments où Dieu veut vraiment agir, au milieu de son peuple, des temps de renouveau, on va trouver un homme qui maîtrise la pensée de Dieu, qui maîtrise la Bible, et qui arrive à le faire découvrir, redécouvrir aux autres. Peut-être l'Église a oublié certains passages ou certaines parties de la Bible, et donc un homme va dire, mais c'est là, c'est dans la Bible, c'est clair, c'est évident, mais on ne l'a pas pratiqué, maintenant revenons à la parole de Dieu et vivons ce qu'il dit. Et voilà, vous regardez dans les rêves, ça a été toujours le cas. Donc, il est qualifié de par sa naissance, sa généalogie, ensuite par cette étude, cette discipline qui s'est faite de maîtriser la Bible. Et puis, une troisième qualité qui fait de lui l'homme de la situation, on apprend en verset 6 que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. La main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Et même c'est un refrain de tout ce livre, cette idée que la main de l'Éternel était sur eux, sur lui. On trouve ça répété à plusieurs reprises dans chapitres 7 et 8. Et la main de Dieu parle de sa bénédiction, parle de sa protection, parle de sa conduite. Et Esdras semble être conscient qu'il s'agit d'une œuvre particulière, que la main de l'Éternel est sur la chose, c'est le moment de Dieu, c'est l'heure qu'il a choisi d'agir et sa main est vraiment sur ce projet, sur cet homme. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, ici comme ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence d'obstacles ou de défis ou de problèmes, mais on voit que Dieu est là dans la chose et on est parfois appelé à discerner, mais où est-ce que Dieu agit? Est-ce qu'on voit sa main sur nous, sur nos responsables? Les capacités naturelles, comme une généalogie, ça, on peut les mesurer. Les connaissances de la Bible, on peut les tester, mais cette main de Dieu dans une affaire, sur une vie, c'est un peu plus subjectif, mais c'est souvent ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire, il faut que la main de Dieu soit sur la chose pour que ça avance. Mais en ce qui concerne cet homme Esdras, c'est ce moment particulier dans l'histoire d'Israël. Voilà, toutes ses qualités étaient réunies. Il avait, par sa naissance, par sa connaissance et par la bénédiction, la main de Dieu, c'était le moment d'agir. Et nous voulons croire que Dieu va encore donner des hommes comme ça à son Église pour conduire, pour nous garder éveillés. Le Nouveau Testament dit qu'un des plus grands dons, cadeaux que Dieu a fait à son Église, ce sont des personnes. Comme on a déjà constaté ça, dans les nouvelles personnes qui peuvent s'adjoindre à l'Église, ce sont des dons de Dieu. Et chaque personne arrive avec ses dons, ses capacités, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a donné des hommes pour qu'ils agissent. Et on trouve des hommes clés à travers l'histoire de l'Église que Dieu a appelés, qu'il a qualifiés de manière particulière, unique, pour faire un travail auxquels il les appelle, des implanteurs d'église, des pionniers missionnaires, peut-être des pasteurs visionnaires, et c'est une grâce. Peut-être ici, parmi vous, Dieu vous appelle, certains d'entre vous, à être des Esdras, la nouvelle génération d'Esdras qui maîtrise la pensée de Dieu et qui veut le partager, qui entraîne l'Église dans un nouveau chemin d'obéissance. D'autres ici, Dieu vous appelle à discerner, à reconnaître chez certains hommes ces qualités, les suivre, les épauler, les encourager, prier pour eux. Et de toute manière, je crois qu'il y a certainement une œuvre, un projet pour lequel vous êtes l'homme de la situation, vous êtes la femme de la situation. Il faut ces mêmes qualités en quelque sorte, même pour être mère au foyer, pour commencer un club d'enfants ou un groupe de quartier. Des grands rêves ont toujours commencé souvent par quelque chose comme ça, une réunion de prière ou bien un club d'enfants que Dieu a béni, a fructifié, et puis ça fait boule de neige ailleurs. Donc, il faut un homme, une femme, tout d'abord, pour que ça avance. Ensuite, deuxième point, il faut une mission. Il faut être clair sur la mission. On peut être hyper qualifié, mais si on ne sait pas quel est le but, c'est un peu dommage. Alors, quelle a été la mission d'Esdras? C'est pas qu'il s'est dit un jour, bon, je crois que je vais faire un tour à Jérusalem, j'ai rien à faire ici à Babylone, je m'ennuie un peu, donc je vais faire un tour à Jérusalem. Non, c'était plus précis que ça, sa mission. Et nous allons lire maintenant la suite, Esdras chapitre 7, verset 11 à 15, et puis la fin du chapitre. Donc on a vu les qualités de cet homme, maintenant voici sa mission. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites, qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Et encore un verset 25. On saute un peu, on fait etc. nous aussi. Et puis 25. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Et donc Esdras qui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Donc, quelle est sa mission? S'il fallait résumer un peu sa mission, en tant que scribe, enseignant de la loi de Dieu, sa mission, ça va être de faire connaître la pensée de Dieu, les lois de Dieu. Ça va être d'inspecter que les choses se fassent d'après la Bible, d'après la loi de Dieu. Et au besoin, sa mission, ça va être de ramener les gens à obéir, comme il dit. Fais respecter la loi de ton Dieu, et si les gens ne connaissent pas, eh bien fais-les connaître. Et donc sa mission, ça va être, pour résumer, ça va être d'enseigner la Bible, ça va être de prêcher la Bible. Il va être chargé de transporter un don, de l'or et de l'argent, pour embellir la maison de Dieu, pour que les travaux continuent. Mais surtout, cette maison de Dieu doit servir à glorifier Dieu. Et Dieu est glorifié lorsque on respecte sa pensée, sa parole, dans tout. Et donc la mission d'Esdras va être de ramener les gens à la Bible, de l'enseigner. Et c'est intéressant parce que beaucoup de Juifs considèrent Esdras comme un deuxième Moïse, tellement il avait un rôle clé à transmettre la loi de Moïse. Et dans un sens, on pourrait dire qu'il a réussi à faire ce que Moïse n'a pas pu faire, parce que Moïse, il a donné la loi au peuple, effectivement, mais quand on regarde l'histoire du peuple depuis Moïse, le peuple dans son ensemble n'a pas été très attaché à la loi de Moïse, aux Écritures. Il y a eu des exceptions, ce sont nos héros. Il y a des David qui étaient vraiment attachés à la Bible. Il y a des Daniel, on voit, qui sont attachés à Dieu et à la parole de Dieu. Mais on voit que le peuple dans l'ensemble, ils ont toujours eu une préférence pour les idoles, les images taillées. Ils n'étaient pas très connus pour avoir chacun un culte personnel, Israël, avant. Une Bible par cabane n'était pas leur devise avant Esdras. Mais à partir d'Esdras, grâce à sa mission, grâce à son rôle, grâce à cette réforme qu'il va mener, eh bien, à partir de ce moment, le peuple juif sera toujours connu comme un peuple attaché aux livres, attaché aux Écritures. Peu après, Esdras va voir la naissance du synagogue, la synagogue, cette manière de fonctionner en Israël. Synagogue où c'est cette communauté qui se rassemble autour d'une copie de la Bible, et vous connaissez encore les traditions juives et l'importance qu'ils accordent au rouleau, au Torah, au livre. Et tout ça, c'est depuis Esdras. Avant, Israël, on ne les connaît pas comme ça. C'est plus les vaudors, les Baals, un éloignement. Parfois, il y a des petits retours vers Dieu. Mais ce qui les a amenés en captivité, c'est qu'ils ont complètement oublié, mis de côté la pensée de Dieu et la Bible. Et Esdras, à partir de ce moment, il va vraiment marquer tout le peuple juif pour qu'il soit un peuple du livre. Et aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un peut-être osé, mais on pourrait dire que le protestantisme évangélique peut retracer son attachement à la Bible, notamment à cette mission accomplie par Esdras. Si vous voulez voir quelque chose qui s'est passé, c'est en Néhémie chapitre 8. Mais donc Esdras va arriver à Jérusalem. Il a le temps qu'il faut pour s'installer, pour comprendre ce qui se passe. Mais ils vont faire Néhémie 8. Un jour, ils rassemblent tout le monde. Je vais vous lire ces premiers versets de Néhémie chapitre 8. Pour voir la mission que Esdras a pu accomplir. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tout ce qui était capable de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Voilà, c'est vrai, le Nouveau Testament ne parle pas de pupitre et d'estrade, mais nous voici une estrade en bois, merci à Jérémie. Aussi pour qu'on puisse faire le même travail. Bon, eux, ils le faisaient toute la journée. Nous, on va faire un peu plus court. Mais vous voyez que ce travail, les protestants, les évangéliques se sont inspirés de notamment ce travail d'Esdras, cette réforme, ce réveil pour reprendre remettre la prédication, l'annonce de la parole au centre du culte. Et dans ce sens, on peut dire que la mission d'Esdras, sur laquelle il s'est focalisé, qu'il a réussi, ça reste encore la mission de l'Église de Jésus-Christ, la mission de l'EBTM, c'est de faire connaître le message de Dieu, faire connaître la Bible, faire connaître sa parole, son évangile. C'est ce qui nous oriente dans nos choix, que ce soit le déménagement vers un autre bâtiment ou nos cultes, tout ça. Nous voulons faire connaître la Bible. Ça, c'est... Quand nous regardons le Nouveau Testament, c'est la mission particulière que Dieu nous a confiée, d'être un pilier, une colonne pour la vérité, de la proclamer. Et les bons capitaines, vous savez, ils savent rester focalisés sur la mission spécifique. Ils savent garder les ordres reçus par le roi. Esdras, il a reçu ses ordres du roi des rois, mais nous avons nos ordres qui viennent du roi des rois au-dessus de tous les rois. Et puis, je pense que c'est une bonne question pour tous à se poser. Quelle est ma mission dans cette vie? Pourquoi suis-je sur la terre? Quelle est ma vocation dans ce monde? Quelle est ma mission? Si je peux m'adresser particulièrement aux jeunes hommes, beaucoup se posent, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous pouvez savoir, tout jeune homme peut savoir, Dieu, il m'appelle à suivre Jésus-Christ, à réussir un métier, à épouser une femme, probablement, et à donner ma vie pour le bien des autres, ma famille, ma ville, mon église. Ça, c'est une mission. Où en suis-je? Est-ce que j'accomplis ma mission? Et l'église a besoin des hommes. Il y a une pénurie. Quand on regarde l'église dans le monde aujourd'hui, il y a une pénurie d'hommes, de jeunes hommes qui se lèvent, qui servent. Eh bien, Dieu nous confie à tous, hommes et femmes, une mission à accomplir. Et nous voulons rester sur cette mission. Donc, on a trouvé l'homme. Il connaît sa mission. Maintenant, il faut se lancer. Et pour cela, il faut de l'aide. Et par de l'aide, j'entends l'aide d'en haut, l'aide divine, le secours de Dieu. Regardons maintenant au chapitre 8, le voyage d'Esdras. Donc il est qualifié, il est envoyé. Maintenant, il faut qu'il parte. Il doit quitter Babylone pour aller à Jérusalem. Donc nous allons faire la lecture de chapitre 8, versets 21. À 23. Donc après avoir réuni un peu tout le monde, fait des listes des gens qui vont l'accompagner, verset 21, là, près du fleuve d'Ahava, on est du côté de Babylone, là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Car c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Et verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Donc, Esdras va faire ce voyage, un voyage qui dure 4 mois. C'est assez long et ça prend du temps. C'est un voyage périlleux, avec des ennemis, des embûches, des dangers. Et en plus, il transporte un chargement d'or et d'argent. Si vous regardez dans les détails, il part avec beaucoup d'or et d'argent que le roi donne à ce projet à Jérusalem. Donc, il doit faire un long voyage, chargé avec beaucoup de richesses. Et tout ça, c'est avant Lucky Luke pour protéger le chargement des bandits. Et puis, comme vous savez des autres bandes dessinées, à la cour du roi, il y a toujours des intrigues et des espions, et il y a toutes sortes de raisons à ce qu'il y ait des jaloux qui veulent aussi rattraper cet argent ou causer des problèmes pour Esdras. Et donc, voilà, les problèmes, ça ne manque pas. Lui-même, il avait dit, oh là là, béni soit l'Éternel qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Il y a certainement un là-dedans qui n'est pas content qu'on donne tout cet argent à Esdras au lieu de le donner à son projet à lui. Donc, les ennemis ne manquent pas. Nous avons vu ça la dernière fois. Il y a toutes sortes d'ennemis qui veulent arrêter ce projet. Donc, il va devoir faire cette traversée et pour ça, il faut de l'aide, il faut une protection, il faut du secours. Mais c'est ce qui est formidable dans cette histoire, un point majeur, c'est que Esdras, il va chercher de l'aide de Dieu. Et pour être sûr que c'est de l'aide de Dieu, il refuse l'escorte et les cavaliers du roi. Comme il dit, donc on s'est arrêté, on a prié, on a imploré Dieu pour un heureux voyage, quand j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger. Il dit, je veux être sûr que, comme nous on avait dit, que notre Dieu est fidèle, est bon, est vrai, qui peut nous protéger, je voulais compter sur lui, et pas sur l'escorte des cavaliers du roi. Et donc, on voit cette démarche d'Esdras. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans les bras de Dieu, il dépend complètement de l'aide de Dieu, c'est ça la foi. Son pas de foi à lui, ça a été de faire ce voyage sans les cavaliers, sans l'escorte. Peut-être qu'il connaissait cette prière de David, puisqu'il connaissait bien la Bible. Psaume 60, verset 11, « Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. » Il ne voulait pas le secours de l'homme, il voulait le secours de Dieu. Alors cela ne veut pas dire que les cavaliers c'est une mauvaise chose ou que nous, la foi c'est de conduire sans ceinture dans la voiture en disant voilà, Dieu délivre tout. Non, les cavaliers c'est pas une mauvaise chose. Si vous lisez l'histoire de Néhémie, quand c'était à son tour de faire le voyage, lui, par la foi, il a demandé des cavaliers. Donc son pas de foi à lui, c'était autre que celui d'Esdras, son pas à foi de lui, c'était de demander la protection. On a étudié l'histoire d'Esther. Esther, son pas de foi à elle, au risque et péril de sa vie, c'était d'aller vers le roi et demander la protection. Donc, chacun de nous, les circonstances peuvent changer, mais à un moment, il faut chercher de l'aide que Dieu seul peut donner. Dieu nous appelle à nous appuyer sur lui, exclusivement, en quelque sorte, et rien d'autre. Et donc pour Esdras, il voyait ce que ça indiquait pour lui, cela impliquait pour lui, c'était de ne pas demander et de se lancer dans ce voyage en comptant que sur Dieu et sa bonne main. Et Dieu exauça, ils sont arrivés sains et saufs, c'est-à-dire il avait fait ce pas de foi en sollicitant l'aide de Dieu, et il est arrivé sains et saufs. C'est l'histoire de notre vie, notre voyage dans cette vie jusqu'au ciel. Nous voulons avoir cette même attitude qui s'appuie sur l'aide de Dieu, le secours de Dieu que Dieu seul peut nous offrir. Récemment, avec mes enfants, on a regardé cette histoire du funambule qui a marché entre les deux tours à New York avant le 11 septembre, quand ils étaient toujours là. C'était un Français, Philippe Petit, il a lui-même pendant la nuit, il a mis un fil entre les deux tours et puis il a marché. Et c'était intéressant dans ce documentaire la manière qu'il raconte, parce qu'à un moment il dit le moment le plus intense, le plus critique, c'était le moment où un moment j'étais debout sur les tours, sur le bâtiment solide, et puis à un moment il fallait basculer tout mon poids sur le fil, et puis voilà, je me suis retrouvé sur le fil. Suspendu là-haut. Et on peut bien comprendre, c'est le moment le plus intense. Déjà, c'était beaucoup de suspense pour arriver, pour mettre tout ça en place, mais avant tout, c'était de s'y lancer comme ça. Et c'est vrai pour notre vie, à un moment, il faut basculer tout notre poids sur Jésus-Christ. Les circonstances particulières, ce que ça peut représenter pour chacun, c'est les appuis qu'on va quitter, c'est ce qui va changer d'individu en individu. Mais basculer tout notre poids sur Jésus-Christ comme seul soutien pour notre vie, comme ce funambule, c'est la seule chose qui le protège de la chute, de la mort, c'est ce fil et il va rester sur ce fil. De la même manière, nous, les chrétiens, nous marchons par la foi en Jésus-Christ, et lui seul qui nous soutient, qui nous sauve. Mais quand nous faisons comme ça, nous pouvons être sûrs que nous arrivons sains et saufs de l'autre côté, puisque Dieu est un Dieu de secours, Dieu est un Dieu qui aide. Donc il faut de l'aide, il faut de la protection dans cette vie. Où est-ce que vous la cherchez? Où est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez dans les cavaliers, les escortes que peuvent offrir ce monde? Parfois des choses légitimes, mais des choses qui ne peuvent pas vous sauver. Il faut le chercher en Dieu. Donc voilà cet homme Esdras, c'est un bon exemple pour nous. Un homme qualifié que Dieu a mis en place pour ce moment, un homme de la situation. Il a reçu une mission, il savait ce qu'il allait faire, et puis il s'est lancé un pas de la foi en comptant sur l'aide de Dieu. Aujourd'hui, nous embarquons notre Église dans une aventure de foi, effectivement. Nous avons besoin de l'aide divine. Nous avons besoin de rester fidèles à la mission que Dieu nous a donnée, d'annoncer la parole. Nous avons besoin des hommes et des femmes que Dieu suscite, qu'il qualifie pour tel ou tel rôle dans ce moment de progrès. Et nous prions que Dieu nous les accorde et nous sommes contents qu'il le fait. Et plus encore, chacun de nous, je pense, nous pouvons dire que nous avons besoin, dans notre vie, nous avons besoin d'un Esdras. Nous avons besoin d'un Esdras qui est là pour nous garder éveillés. Ce matin encore, j'ai appuyé sur le réveil et puis 30 minutes plus tard, nous avons besoin d'un Esdras qui est là, qui nous réveille et qui nous garde éveillés. Quelqu'un qui est parfaitement qualifié pour nous conduire jour après jour. Quelqu'un qui nous enseigne parfaitement la pensée de Dieu, qui la maîtrise, qui la connaît, qui la vit. Quelqu'un qui nous ramène à Dieu dans nos égarements. Nous avons besoin de quelqu'un qui est humble comme Esdras, quelqu'un qui est courageux comme Esdras, quelqu'un qui est intègre comme Esdras. Pour lui confier nos vies, on lui a confié de l'or et argent à Esdras, mais nos vies. On a besoin de quelqu'un qui est prêt à se risquer, faire un voyage périlleux pour nous aider. On a besoin de quelqu'un sur qui est vraiment posée la main de Dieu, qu'on reconnaît lui, là, il a la bénédiction de Dieu sur sa vie. On a besoin de quelqu'un qui peut former et réformer nos cœurs, nos vies. Vous savez, le prénom Esdras veut dire justement aide, secours. Et nous aussi, nous connaissons quelqu'un qui s'appelle secours, aide, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a accompli tout ça pour nous. Il est notre secours, il nous a secourus. C'était sa mission. Il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu pour annoncer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le salut de Dieu. Il l'a fait. Il a mené parfaitement sa mission. Lui, il a fait le grand voyage, voyage périlleux. Ce n'était pas juste au risque de sa vie devant les ennemis, c'était au prix de sa vie. Il a donné sa vie pour nous à la croix, puis il est ressuscité. Et c'est lui qui est notre aide, notre secours, notre Esdras. Et quand nous donnons notre vie à lui, il nous conduit sain et sauf jusqu'à bon port. Et il nous garde éveillés, il garde son Église dans cette réforme, dans ce renouveau, dans cet esprit de progrès. On a besoin de cet Esdras qui nous conduit, et il le fera, telle est sa promesse.